Catulle Mardès, monstre parisien, les faux amants. Quelqu'un dit étourdiment en allumant un cigare, ben « Depuis que Madame de Roseboise est la maîtresse de Clerqueville... » Valentin haussa les épaules. « Mes chers amis, vous êtes de grands enfants. Briséis a dormi avec Achille, Aspasie avec Périclès, Cléopâtre avec Antoine, Héloïse avec Abélard, la Parabère avec Philippe II, Manon Lescaut avec quelques-uns, Constance Chapuis avec tout le monde, et ma cuisinière tutoie mon valet de chambre 1 h à 3 h du matin. Mais Madame de Roseboise n'est pas la maîtresse de Clerqueville. Mais tu te moques de nous ? En aucune façon. Mais tout cet hiver, Madame de Roseboise était accompagnée par Clerqueville le matin au bois. Je l'accorde. Les lundis à l'opéra, les mardis à la comédie française, ils étaient ensemble dans une baignoire, souvent seuls. Je l'admets. Et après les concerts chez Madame de Roseboise, Clerqueville affectait de s'attarder dans le salon, accoudé au piano quand tout le monde partait déjà. Mais je le reconnais. Mais depuis 8 jours, ils sont à Aix-les-Bains, logés dans le même hôtel. Enfin, leur liaison est avérée, affichée. Affichée seulement. Vous n'avez pas d'autres preuves ? Mais beaucoup d'autres. C'est par le récit de Clerqueville, député et bientôt ministre, que Madame de Roseboise a fait décorer Mirbelot, bien qu'il peigne des batailles comme on barbouille des enseignes. Et il est vrai. Clerqueville a usé de l'influence de Madame de Roseboise, qui est la sœur du général Brook, pour faire exempter du service militaire 30 conscrits de son arrondissement. Hop, il est possible, et de tout cela, vous concluez ben, qu'ils sont amants, parbleu. Mais c'est fort mal conclu, amants, eux, allons donc. Associés, voilà tout. Peuvent-ils aimer ces gens-là? S'aimer surtout, se connaissant. Avec ses 37 ans revenus de toutes les illusions, est-ce que Madame de Roseboise est capable encore d'un sentiment sincère et d'un abandon non tendre? Mais, pour donner son cœur, il lui faudrait d'abord en rassembler les morceaux, éparpillés par le hasard des flirtations diplomatiques dans toutes les capitales de l'Europe. Elle ne trouverait pas le temps d'aimer, d'ailleurs. Le maquillage lui prend une moitié de sa journée. L'autre moitié est dévorée par les affaires et les intrigues, causerie avec le coulissier que l'on reçoit en peignoir dans le cabinet de toilette, visite chez les sœurs ou les femmes des membres du gouvernement, dîner ou bal dans les ambassades. Et la nuit, Madame de Roseboise se repose. Ce n'est pas une femme, cette vanité, cette puissance habillée par Juvincy ou par Labeau et Robinat. Quant à Clerqueville, 52 ans, pansu, qui s'essouffle à monter les escaliers de son cercle, le croyez-vous capable à s'attarder aux tendresses minutieuses et absorbantes d'un attachement vrai, parmi les soucis que lui donne son discours de demain à la Chambre, la déconfiture probable de la banque qu'il commandite, et sa présidence d'un conseil d'administration qui lui vaut 100 000 francs par an? Si vous voulez trouver et admirer la bourre, ne le cherchez pas, camarade, chez cette mondaine affairée de plaisir et d'ambition, ni chez ce financier de parlement, que la cupidité et le besoin d'influence tenaillent. Mais considérez, le soir, avec des yeux attendris, dans les rues mal éclairées de gaz, le fort garçon de boutique qui serre sur son cœur à plein bras, sous les portes cochères, quelques jeunes servantes sans bonnet, ou bien le matin, au détour du sentier des bois, les amoureux qui passent enlacés et buvant sur les rêves unis les gouttes de rosée qui a laissé choir leur humement fleuri des branches. Mais qui te parle d'une idylle populaire ou d'une jeune orastiste? Clerqueville et Madame de Roseboise ne s'aiment pas, c'est possible, c'est probable. Est-ce une raison pour qu'ils ne soient pas du dernier bien, comme disaient les marquis de Molière? Les 37 ans maquillés de Madame de Roseboise sont alléchants et attirés. quoique ventre vu, Clerqueville, habillé par un tailleur de génie, a fort bel air encore. D'ailleurs, gens du même monde, se rencontrant chaque jour, elle bien née et lui millionnaire, pouvant sans trop de scandale laisser entendre qu'ils se sont plu. Ils avaient précisément tout ce qu'il faut pour contracter une liaison de convenance. Elle est charmante, soit, il est élégant, soit, mais pour se laisser prendre, lui a ce charme et elle a cette élégance. Chacun d'eux est trop conscient de la valeur réelle de l'autre. Ils savent trop bien de quels soins, de quels artifices, de quel redressement opiniâtre de tout leur être est fait tout ce qui leur reste de jeunesse et de grâce. La déception dont serait suivi un abandon trop complet dans des bras qui hésiteraient à s'ouvrir. Madame de Rosebois, je prévois, grâce à d'anciennes expériences, la nudité d'un crâne hideuse parmi les dentelles d'un oreiller. Les barbes les mieux teintes peuvent laisser des baisers noirs sur la bouche défardée, et Clerqueville redoute des désillusions analogues. Il ne croit pas à la sincérité des corsets qui étranglent la taille et plus haut s'élargissent. Il redoute l'expansion soudaine du ventre que comprimèrent les baleines. Il soupçonne l'hypocrisie du rose sur les lèvres et du noir sur les yeux. Dans la négligence des enlacements bourrants, les rondeurs naguère maintenues s'abandonnent et s'affaissent, les plus légers plis se détendent en rides. Et qui sait si, malgré les nécessités de la courtoisie, il ne montrerait pas quelque hésitation au moment même où il convient de n'en pas montrer, puisqu'il n'a plus l'emportement aveugle des jeunes années. Et non moins que la peur des déceptions, la vanité leur conseille de s'abstenir l'un de l'autre. Se révéler telle qu'elle est en effet à celui qu'il a toujours connue si différente, cesser d'être pour elle un gentleman, net et bien conservé que le monde juge irréprochable. Enfin, avec des affres forcés de sourire et de baiser, voir passer dans les yeux, elle de lui et lui d'elle, la rancœur furtive du désappointement. Extrémité formidable qu'ils éviteront toujours. Oh, certes, les familiarités intimes de flirtation consenties, ils se les prodiguent, presque heureux. Leurs regards se mêlent d'un peu loin avec des tendresses pâmées, et on les a surpris derrière des rideaux, les mains dans les mains. Même sans être amants, ils laissent croire qu'ils le sont. Ils veulent qu'on le pense, ils veulent qu'on le dise. Pourquoi ? Par vanité peut-être, pour qu'on les soupçonne capables de se donner le bonheur qu'ils ne peuvent pas se devoir, pour d'autres raisons encore. Puisque la mode exige d'une femme comme elle qu'elle est, sans le cacher ni l'avouer, un amant de son monde, puisqu'il est de bon goût pour un homme comme lui d'être vu d'un bon œil par une parfaite mondaine, ils acceptent avec plaisir le vague scandale chuchoté de leur liaison. D'ailleurs, affamés de millions et d'influence, ils tirent de ces soupçons un profit considérable. On les redoute d'autant plus et on les sert d'autant mieux qu'on les soupçonne plus étroitement unis et leur intimité supposée double en effet en leur puissance. Et en achevant ces mots, Valentin nous regardait, triomphant, persuadé de nous avoir convaincus. L'un de nous répondit: « Ah, Chimère, il y a 3 semaines, une nuit vers 2 heures du matin, j'ai vu, moi qui vous parle, Madame de Rosebois et Clerqueville, elle, très voilée, lui le col est relevé, sortir furtivement d'un de ces restaurants nocturnes où il y a des lits dans les cabinets de mousseline et de soie. » Valentin parut quelque peu déconcenancé, mais il ne tarda pas à reprendre. Eh bien, si vous vous êtes pas trompé, s'il est vrai que Clerqueville et Madame de Rosebois aient poussé jusqu'à de tels rendez-vous l'hypocrisie de leurs fausses amours, voici ce qui s'est passé avant, pendant et après le souper. À peine seul, il s'est jeté aux pieds de son ami, la remerciant, l'adorant, avec des paroles et des gestes éperdus. Elle ne l'a pas repoussée, Clémente. Le garçon est entré, a détaillé le menu. Ils avaient l'air troublés, inquiets, craignant d'avoir été surpris. Ils se sont assis devant la petite table, sur le sofa. Il a regardé manger avec des yeux pleins de reconnaissance. Qu'elle était belle, qu'elle était bonne d'être là. Il lui prenait une main, celle qui ne tenait pas la fourchette, lui passait un bras autour de la taille. Mais à chaque instant, le garçon entrait. C'était insupportable. Enfin, Clerqueville a dit « Je sonnerai ». Mais en poussant la porte, il a remarqué qu'elle fermait très mal, malgré le verrou. Oh, si l'on était chez soi! Pourtant, il est revenu s'asseoir sur le sofa. Presque enlacé, il se parlait à voix basse. Elle inclinait la tête sur le coussin, un peu. Ce fut une heure délicieuse. Tous les chers mots, il les lui disait. Son haleine écartait ardente les petits frisons roux qu'elle a sur le front. Et lui mettait des baisers dans le cou, et très tendre, elle laissait s'entrouvrir ses lèvres, pareil à une rose qui veut être cueillie. Hélas, comme le temps passe vite! 2 heures du matin, on devrait songer à partir. Clerqueville sonna. Mais avant que le garçon ne vînt, ils s'embrassèrent une dernière fois, passionnément. Ils étaient haletants, tremblants. Ils avaient été heureux, si heureux. Et quand ils furent sur l'escalier, ils étaient émus et tendres encore, au point de se tutoyer sans y prendre garde, chose très grave, puisque le garçon les suivait. Oui, de se tutoyer, comme s'ils en avaient eu le droit. Nous éclatâmes de rire. De sorte, dis-je, que Madame de Rosemoise est en réalité une femme absolument vertueuse, et Clerqueville plus chaste des Sigisbées. Oh, pardon, répliqua Valentin. Je crois et j'affirme que les choses se sont passées ainsi dans le cabinet de soie et de mousseline où il y avait un lit. Mais rien ne nous empêche de penser que Madame de Rosemoise a quelque part dans Paris, par-delà des ponts, un jeune ami bien discret, obscur inconnu, à qui elle ne craint pas d'avouer les imperfections encore exquises de sa beauté savante, et que Clerqueville, le soir même, s'est départi de sa continence grâce aux complaisances énergiques de quelques demoiselles.